paru récemment, un qui s'appelle La foi chrétienne et les défis du monde contemporain, et l'autre, Vivre en chrétien aujourd'hui, repère éthique pour tous. Donc ce sont des livres collectifs, et donc on a demandé à différents auteurs d'écrire des sujets qu'ils maîtrisaient plus que les autres. Et alors, moi, j'ai effectivement hérité d'un chapitre là-dedans, qui s'appelait Le travail et les loisirs. Bon, si vous trouvez à la fin que j'ai pas assez parlé des loisirs, vous pourrez toujours me poser des questions. Effectivement, j'ai plutôt axé sur les chrétiens et le travail, mais bon, la question des loisirs, j'en parlerai un petit peu au passage. Il y a cet autre livre, où là, les articles sont un peu plus courts, et puis, vous savez pas organisé de la même manière. Et là-dedans, j'ai écrit aussi un article de travail qui donc est lui-même plus court, et j'ai aussi écrit un article sur la justice. Alors, je ne parlerai pas. Si, en fait, je parlerai de la justice dans le travail aujourd'hui, bien sûr, parce que la question est posée aussi. Voilà. Alors, je ne touche rien sur ces livres, enfin, c'est-à-dire que ce que j'ai déjà touché. Hein. Donc, si vous les achetez, ça ne me rapporte rien. Si vous les achetez pas, non plus. Hein. Mais donc, je vous recommande quand même, c'est un travail intéressant qui a été dirigé. Donc, celui-là, Alain Dizus, Hugo Etodovitch, Louis Schweitzer, celui-là, Christophe Paya, Nicolas Farabi. Voilà. Je pense que c'est une initiative intéressante. Et puis, ne vous effrayez pas sur la taille des livres, après tout, ce sont des petits articles. Donc, vous pouvez les acheter puis on va lire ça par petite dose. Et sinon, je suis membre de l'église mélanite de Villeneuve-le-Comte. En fait, je suis au niveau voisin, quasiment. J'ai pas problème de temps, il faut pour aller 12 heures à Villeneuve-le-Comte, 10 minutes, un quart d'heure. Si je suis chez moi directement l'analogue, donc je ne me rends pas compte, enfin, c'est tout près en fait. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, les chrétiens et le travail. Bon, c'est bizarre, mais on le travail quand on a un travail. Enfin, je ne sais pas comment vous êtes, mais quand on a un travail, en général, on se plaint de son travail. On parle le soir, on dit le soir, on dit tout ce qui ne va pas. Et puis quand on n'a pas de travail, on se plaint parce qu'on n'a pas de travail. Voilà. Bon. Donc c'est un peu comme vous le savez, c'est l'histoire des mouches sur le carreau. Celles qui sont dehors veulent venir dedans et puis celles qui sont dedans veulent aller dehors. Voilà. Donc le travail, est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction? Alors, en fait, si on lit un petit peu, on peut juste passer peut-être la diapositive suivante. Voilà. Je vais parler de trois choses. Le travail, notre vocation malgré la chute, ça c'est ce que je vais raconter maintenant, les difficultés, les conflits, les injustices, les tensions dans le travail. Donc, deuxième point était la question, la reconnaissance de soi dans le travail. Et donc, c'est la diapositive suivante. Voilà. Au commencement, ce que dit le livre de la Genèse. Il me semble que ce que dit le livre de la Genèse, c'est assez éclairant, c'est assez aussi équilibré, si on y porte attention. En fait, le travail fait partie vraiment de notre vocation. Bon, c'est ce que j'ai marqué, je le pense. Mais évidemment aussi, c'est un des éléments de notre vocation qui est le plus directement touché par la chute. Le poids du péché se manifeste lourdement dans le travail. Mais pourtant, le travail continue à faire partie de notre vocation. Même après la chute. Alors, avant la chute, voilà ce que dit le texte de la Genèse, donc ça c'est Genèse 2, le verset 4. Donc c'est le deuxième récit de la création. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Intéressant, hein? Le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Voilà. Vous voyez tout de suite, comme c'est posé, il y a une sorte de Dieu donne place à l'homme. Enfin, l'homme ne fait pas tout. Dieu fait pleuvoir, mais l'homme cultive. Bon. Mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient. Il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, arbre de vie connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Je saute. Verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Voilà. Pour cultiver le sol et le garder. Je trouve que ce texte est très équilibré. On ne lui dit pas que l'homme fait tout. Avant que l'homme soit là, Dieu fait pleuvoir, Dieu fait germer. Il y a un flux, comme nous dit le texte, qui monte de la terre. Mais on ne lui dit pas non plus que l'homme ne fait rien. Il est là pour cultiver et pour garder le jardin. Et même pour cultiver, il faut faire attention. C'est ce que vous avez dans la plupart des traductions. Mais en fait, le verbe qui est utilisé, c'est le verbe servir. L'homme est là pour servir le sol. Intéressant. Hein? Pour le soleil, non pas pour la servir. Hein? Bon, par rapport aux réflexions actuelles sur la manière dont on utilise le sol, je trouve que c'est intéressant. Donc l'homme est là pour servir le sol. Bon, le cultiver, si on veut le voir dans une optique quand même précise. Alors, dans Genèse 1, le chapitre d'avant, Dieu parle de dominer la terre. Bon, ça c'est peut-être un peu plus loin. J'en reparlerai, mais bon, vous voyez qu'il y a quand même un rôle qui est donné à l'homme avant la chute. Alors, que se passe-t-il à la chute? En fait, Dieu maudit le sol plutôt que le travail en lui-même. C'est-à-dire, en fait, bon, exactement, ça c'est Genèse 3, verset 17. Dieu dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est-à-dire ton rapport au sol. Enfin, c'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie, il sera germé pour toi, cette fois-ci, non pas de l'arbuste, etc., mais de l'épine, du chardon. Tu mangeras l'herbe des champs, à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, oui, tu es poussière. Et à la poussière, tu retourneras. Donc, Dieu dit que le travail va être pénible, mais il ne dit pas que du coup, il ne faudra plus travailler pour échapper à ces pénibilités. C'est le travail reste la vocation de l'homme. Alors, il y a aussi un autre équilibre, pour parler un tout petit peu des loisirs. Dans le livre de la Genèse, Dieu travaille, Dieu crée, et puis Dieu se repose. Donc, il y a une sorte de... Et aussi, donc c'est là aussi une manière de dire que le travail n'est pas tout. Le travail n'est pas rien. Le travail n'est pas tout. Il y a une sorte de respiration entre le travail et le repos. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Et le septième, tu te reposeras. Pour moi, le septième jour, je travaille. Vous aussi d'ailleurs, qui m'écoutez, vous travaillez. Hein, une forme de... On est obligé de mobiliser un peu vos neurones là, en m'écoutant. Hein, c'est pas complètement passif. Et puis on se rend compte que si on compare ce que dit Dieu en Genèse 1 sur l'idée de dominer la terre, et en Genèse 9, c'est quoi? Il y a eu la chute, il y a eu le déluge, et puis il y a de nouveau un commencement. Après Genèse 9, il y a eu là déjà, je dirais, pas mal d'événements. Le péché, c'est quand même, a produit des fruits négatifs. Et en fait, si on compare Genèse 1, 26 et Genèse 9, 1, ce que Dieu dit à Noé, Genèse 9, une fois qu'il sort de l'arche, on s'aperçoit que c'est à la fois proche, mais il y a des différences. On voit qu'il y a quelque chose qui est passé en Genèse 1, 26. Alors, là, je ne l'ai pas encore lu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre, toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, prolifiques, remplissez la terre, dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remet sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence sera votre nourriture, à toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et à qui a soufflé de vie, jeune pour nourriture, toute herbe mûrissante. Voilà, Genèse 1. Genèse 9. Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit, soyez féconds, prolifiques, remplissez la terre. Ah, même chose. Bon. Mais après ça, qu'est-ce qu'il dit? Vous serez craints et redoutés de toutes les bêtes de la terre et de tous les oiseaux du ciel. Vous voyez que là, il y a une nuance un peu, c'est pas tout à fait la formes, il y a une crainte hein, qui s'est installée entre l'homme et les animaux. Alors qu'avant, on ne parlait pas de ça, hein, c'est bon, on pouvait sauver les animaux, mais là, il y a une petite différence d'accent. Tous ceux qui remuent sur le sol et tous les poissons de la mer sont livrés entre vos mains. Mais c'est encore une fois, il y a un accent un tout petit peu plus dramatique, quoi. Mais c'est pas dominé, etc. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme hein, avec l'herbe. Alors ça, je ne sais pas trop comment l'interpréter, mais enfin bon. Comme déjà, l'herbe nourrissante, je vous donne tout, toutefois. Et alors là, donc, on voit que, on va voir aussi qu'il y a une manière d'incorporer ce qui s'est passé, la violence, etc. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Et de même, de votre sang, qui est votre propre vie, je demanderai compte à toute bête, et j'en demanderai compte à l'homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de son frère. Là aussi, vous voyez qu'on n'avait pas ça au moment de la création. Il y a là aussi l'incorporation d'une injustice, d'une violence et de la manière de réguler cette injustice. C'est après la chute. Il y a des relations violentes qui se sont installées et on les régule. Donc ça, c'est encore une fois un peu différent. Qui verse le sang de l'homme par l'homme, le verra son sang versé. Car, à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. Donc on retrouve le thème de l'image de Dieu, et cette fois-ci de manière un peu différente. C'est plus mâle et femelle, les créatures, etc. C'est plutôt l'image de Dieu, qui est en fait l'image de l'amour. Là, c'est en fait l'image de Dieu comme une protection contre le crime. Puisque Dieu a fait la façon d'image, en fait, tuer un homme, c'est tuer l'image de Dieu. Quant à vous, soyez féconds, prolifiques, pullulez sur la terre et multipliez-vous sur elle. Et Dieu a dit plus de la dominer. Voilà ce que je veux dire. On voit qu'on est dans une situation quand même un peu plus ambiguë. Bon. Il y a une sorte de redémarrage, mais pas un redémarrage à l'identique. On voit qu'on est dans un monde de violence. Voilà. Donc, gardons cette idée. Le travail fait partie, il fait toujours partie de notre vocation, mais il est traversé par la chute, par la violence, par la domination injuste, par le péché, et cela le rend pénible. Voilà. Et ce ne sont pas seulement les relations dans le travail qui sont pénibles, c'est aussi l'activité en général qui est pénible, et qui fait que nous avons les uns avec les autres des relations marquées par le péché. Voilà. Bon. Je dis tout ça, mais faites-vous remarquer quand même qu'il y a une espèce de tendance, enfin, peut-être ça ne vous frappe pas, moi je trouve quand même qu'il y a une tendance, souvent dans l'Église, à dévaloriser le travail. Bon, je vais m'expliquer ce que je veux dire par là. Beaucoup de chrétiens ont tendance à considérer le travail comme quelque chose d'un peu secondaire. Enfin, c'est ce que je constate. Hein. Si ce n'est pas votre cas, je m'en réjouis. Hein. Je veux dire, bon. Beaucoup de chrétiens pensent que la vraie vie, c'est ce qui se passe à l'Église. Bon, il y a une richesse particulière à ce qui se passe dans l'Église, je ne dis pas le contraire. Hein. Ou alors on dit, ben, le travail, c'est pas mal parce que comme ça donne des occasions de témoigner. Mais qu'est-ce que vous faites chacun dans votre travail, ça compte. Alors, d'ailleurs, on peut poser la question, être chrétien dans son travail, alors, je pense qu'il y a des tas de choses qui vous viennent à l'esprit, être chrétien dans son travail, ben, c'est être quelqu'un de correct, de respectueux des autres, etc. Voilà, être chrétien dans son travail. Mais, autre question, être chrétien par son travail, par le travail que vous faites, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en général, quand je pose ce genre de questions, j'ai pas de réponse. On a du mal à donner du sens à notre travail. Pourtant, ça fait partie de notre vocation, le travail qu'on fait. Bon. Alors, on porte beaucoup d'intention, par exemple, au don des uns et aux autres dans la vie d'Église. On essaie de pouvoir discerner les dons, de répartir les dons. Tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il en est des dons hors de l'Église? Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Est-ce qu'il y a des dons qui seraient donc des dons spirituels, qui auraient les dons naturels d'un autre côté, ou est-ce que c'est les mêmes dons? Alors, en fait, je pense qu'on est encore marqué, finalement, qu'on le veuille ou non, par une histoire qu'on aurait dû pourtant surmonter depuis la Réforme. Moi, je vais expliquer un peu ce que je veux dire. Autrefois, dans l'Antiquité, c'était mal vu de travailler. On n'arrive pas à se représenter aujourd'hui. Ce qui était le mieux dans l'Antiquité, si vous aviez les moyens, c'était de rien faire. Alors là, les loisirs, c'était le top. C'est sa vie dans l'oisiveté, c'est formidable. Si vous aviez étiez quelqu'un d'important, vous passiez votre temps à montrer que vous ne faisiez rien. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il fallait. Bon, donc en fait, le travail c'était bon pour les esclaves. Hein, donc celui qui ne travaillait pas n'était pas esclave. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait les esclaves qui travaillaient à côté. Puis, alors, sinon, il y avait une catégorie intermédiaire qui était les artisans. Alors eux, les artisans qui étaient dans un statut un peu intermédiaire, c'est qu'ils étaient souvent indépendants. Mais le fait qu'ils travaillaient, ça faisait que, bon, ils étaient des citoyens de deuxième zone. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Pendant que Paul, qui était un faiseur de tentes, était un artisan. Et donc, voilà. Mais donc, quand on avait les moyens, mieux, c'était de passer son temps à parler et à mener une vie de luxe et de loisirs en faisant travailler les autres. Voilà. D'ailleurs, si vous allez encore, moi, ça m'avait beaucoup frappé, si vous allez dans les pays méditerranéens, vous voyez que là, c'est une culture de la tchatche. Pas l'avoir qui n'a pas trop fait, mais bon, les gens travaillent comme un peu plus qu'à l'époque, mais que je veux dire par là, toujours, et souvent quand vous allez par dans les rues, vous apercevez que c'est la culture de la tchatche, on parle des hommes, hein, les machos, hein, c'est les gars, qui parlent pendant que les femmes, elles travaillent à la maison, peut-être qu'elles parlent aussi, bon, on n'en sait rien. Hein, bon. Alors, donc, et l'Église a été un peu contaminée par ce préjugé. On a souvent pensé que la contemplation était plus importante que l'action. Alors, je ne sais pas si vous le pensez, mais. Alors, pour moi, c'est comme le travail et le loisir, c'est pas pour dire qu'il ne faudrait pas du tout contempler. Hein. Il y a une forme de respiration. Entre travail et loisir, il y a une forme de respiration entre la contemplation et l'action, mais l'action, elle est au moins aussi importante que la contemplation. Mais souvent, on a pensé que c'était mieux de contempler. Bon. Pendant le Moyen-Âge, juste avant la Réforme, les prêtres, ils se sont constitués comme une classe à part qui était dévolue à la prière, ce qui est bien de prier. Et la vie de perfection, c'était une vie de prière dans laquelle, à la limite, le travail, quelquefois on disait prier, travailler. Bon. Donc c'était bien, ça c'est bien travailler un petit peu, ça a une sorte de jogging, vous voyez, une sorte de jogging spirituel, travailler un petit peu, mais enfin, le focus essentiel c'était la vie de prière, et prier, travail, quand on regarde un petit peu, c'était normalement les moines, en fait, ils ne travaillaient pas tant que ça. Hein. Et alors, à la fin du Moyen-Âge, il y a toute une critique des ordres monastiques qui se sont développés, et justement parce qu'en fait, on genre dans les villes où maintenant le travail se développait avec la montée en puissance de la bourgeoisie urbaine, etc., trouvaient qu'il y avait quand même beaucoup de parasites autour d'eux. Donc il y a toute une critique des ordres monastiques qui se sont développées, qui est une critique qui a été reprise par Luther. Alors au XIIIe siècle, par exemple, il y avait les ordres mendiants qui se sont apparus, ce qui était une bonne idée, si vous voulez, il y avait quelque chose de riche dans les ordres mendiants liés à la vie de pauvreté. Oui, sauf qu'au bout d'un moment, cette vie de pauvreté était assez largement dévoyée. En fait, les gens, c'était des petites assiettes, quoi, tout simplement. Une chose, effectivement, de la vie de pauvreté, mais vous pouvez avoir une autre chose, qui est la vie de richesse en prétendant que vous êtes pauvre. Alors voilà ce que raconte par exemple Luther. Donc, début du 16e, Jaffé, le comte, quelques 5 ou 6 ordres mendiants viennent chacun en un endroit plus de 6 ou 7 fois par an. Donc vous voyez, vous avez à peu près, vous faites rançonner une trentaine de fois dans l'année. Donc, vous voyez, 5 ou 6 ordres mendiants, 6 ou 7 fois par an. À quoi s'ajoutent les mendiants ordinaires, les clercs itinérants, les pèlerins, ce qui fait total qu'une vie est imposée que 60 fois par an, sans compter les droits, taxes et impositions du pouvoir temporel. Alors, conclusion de Luther, celui qui veut être pauvre ne devrait pas être riche. Ah oui, quand même. Hein, voilà. Et si on veut être riche, qu'on mette la main à la charrue et que l'on cherche soi-même à faire sortir du sol de la richesse. Voilà, ça c'est le point de vue. Et si vous voulez, Luther, en fait, il exprime complètement le point de vue des classes urbaines qui, elles, travaillaient et qui commençaient à trouver que c'était bien, que tous ces gens qui faisaient vraie pauvreté, mais qui en fait s'enrichissaient sur nous, les autres, avaient un petit problème. Bon. Et en fait, les réformateurs, ils ont développé l'idée du sacerdoce universel, c'est-à-dire que justement les prêtres ne sont pas une catégorie à part, nous sommes tous prêtres, même si après ça on peut naturellement payer des gens pour s'occuper de l'église à plein temps. Je ne suis pas en train de critiquer Emmanuel. Rassure. Non, nous sommes tous prêtres, donc nous sommes tous concernés par le travail, quel que soit le lieu où nous l'exerçons. Ah, mais du coup, si vous voyez, il y a une conséquence indirecte de cette idée du sacerdoce universel, c'est qu'en fait, la division entre les dons spirituels et puis les autres dons, elle a tendance quand même à s'affaiblir un petit peu. Alors, par exemple, Luther. Je vous lis les textes d'abord Luther et après Calvin, par ordre chronologique, puisque Calvin a écrit quelques années après Luther. de ceci, de la question du sacerdoce universel, et résulte qu'entre laïcs, prêtres, princes, évêques, et comme ils disent, entre le clergé et le siècle, il n'existe au fond vraiment aucune différence, si ce n'est celle qui provient de la fonction ou de la tâche, mais non pas de l'État, car tous appartiennent à l'État ecclésiastique. Il n'y a pas donc, il peut y avoir des fonctions différentes, mais il n'y a pas une sorte d'État à part qui serait l'État ecclésiastique, qui serait évidemment, et donc du coup, sous-entendu, super éminent. Bon. Ils sont vraiment prêtres, évêques et papes, mais tous n'ont pas la même sorte de tâche à remplir, comme parmi les prêtres non plus. Tous ne se voient pas confier la même sorte de tâche. Et il est dit dans saint Paul, Romains 12, 1 Corinthiens 12, donc c'est les textes sur les dons, et dans saint Pierre, 1 Pierre 2, comme je l'ai indiqué plus haut, que tous, nous sommes un seul corps, tous nous sommes un seul corps dans la tête de Jésus-Christ, chacun de nous est membre d'autrui. Le Christ n'a pas deux corps, ni deux espèces de corps, il n'y a pas un corps laïque et un corps ecclésiastique, il est une tête et il a un corps. Voilà, ça c'est bien l'idée du sacerdoce universel. Et après ça, de même, ce que maintenant on a ecclésiastique ou prêtre, évêque ou pape, ne se distingue par aucun signe particulier ni aucune dignité spéciale, si ce n'est qu'il doit administrer la parole et les sacrements de Dieu. Là, on est d'accord. Un sabotier, un forgeron, un paysan ont chacun la tâche et la fonction de leur métier, et pourtant, tous sont également consacrés prêtres et évêques. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes sabotier, forgeron ou paysan, ce que vous faites est moins spirituel, d'accord ? Et chacun doit, en remplissant sa tâche ou sa fonction, se rendre utile et secourable. Chacun doit se rendre utile et secourable, qu'il soit actif, travaillant dans l'Église, travaillant hors de l'Église, afin que, de la sorte, ces tâches multiples concourent à un but commun. Ces tâches multiples, donc ces tâches réputées dans l'Église et les tâches hors de l'Église, ces tâches multiples concourent à un but commun pour le grand bien de l'âme et du corps. Voilà. Un but commun pour le grand bien de l'âme et du corps. Je trouve ça très, très équilibré, encore une fois. Tout comme les membres du corps se rendent mutuellement service. Oui, l'idée. On est donc dans l'idée d'un corps du Christ dont les fonctions et les missions débordent du cadre de l'Église. Je trouve que, voilà, c'est une idée qu'on devrait garder à l'esprit. Nous sommes le corps du Christ, y compris quand nous ne sommes pas à l'Église, pour le grand bien de l'âme et du corps, afin que tous les membres du corps soient mutuellement service. Bon. Alors, Calvin, alors lui, il va encore plus loin, nul artisan du plus bas métier que ce soit n'est excellent dans son état si l'Esprit de Dieu ne besogne pas en lui. Vous voyez, même l'excellence professionnelle, c'est un fruit de l'Esprit, vu par Calvin. Car bien que les dons soient divers, il n'y a qu'un esprit duquel découlent tous les dons, voire, selon qu'il aura plu à Dieu d'en distribuer à chacun par mesure, cela n'a pas lieu seulement aux dons spirituels, lesquels suivent la régénération, mais en toutes les sciences qui concernent l'usage de la vie commune. Oui, alors tout à l'heure, on voit bien dire littéralement qui lui est même. Il y a même l'idée de. On voit l'émergence, en fait, du savoir scientifique, hein, à ce moment-là, au XVIe, dans toutes les sciences qui concerne l'usage de la vie commune. Et là, Calvin pensait aussi au droit, parce qu'il avait une formation de juriste. Bon. Donc, voir selon qu'il aura plu à Dieu d'en distribuer à chacun par mesure, en toutes les sciences qui concernent l'usage de la vie commune. Et en fait, c'est un commentaire sur ce Calvin, c'est un commentaire sur un texte de l'Exode, peu connu, que j'ai découvert d'ailleurs à l'occasion, Exode 31, verset 2. Donc, c'est Dieu qui parle à Moïse. Sache que j'ai choisi Bezalel, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Alors, évidemment, il parle de la construction du temple. Bon, d'accord. Mais, donc, on peut se dire, ah oui, mais il a fait ça pour construire le temple. Mais en fait, je pense que Calvin a bien compris que pour la construction du temple et pour tout le reste, hein, je l'ai rendu capable de faire des inventions. C'est le texte de l'Exode, je suis en train de vous lire. Et en fait, je pense qu'on a souvent fait marche arrière, finalement, par rapport à Luther et à Calvin. C'est dommage. Et en fait, ce n'est pas parce que ce que nous vivons dans le travail est frustrant que cela correspond moins au don auquel Dieu attache de l'importance. question du sens du travail. Alors, de quel travail est-ce que je parle? Quand je parle du sens du travail, est-ce que je parle d'un travail rémunéré? Non, pas forcément. Une activité qu'on fait pour les autres. Voilà. Un travail, c'est une activité qu'on fait pour les autres, qu'elle soit payée ou pas payée. Faire la cuisine, c'est un travail, s'occuper de quelqu'un, se consacrer à une activité bénévole, tout ça, ce sont des travaux. Même un enfant qui fait un dessin pour quelqu'un d'autre, travaille. C'est une activité qu'on fait pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc la question qui change tout, c'est la question du sens qu'on donne à notre travail. Pour qui, pourquoi est-ce que nous faisons ce travail? Comment est-ce que je peux être chrétien? Par mon travail. Pour qui, pourquoi? Et alors là, c'est intéressant de penser à deux textes qui sont en fait dans l'évangile de Luc, qui se suivent dans l'évangile de Luc, sauf qu'on n'a juste pas l'habitude de les lire l'un à la suite de l'autre. On a plus de tendance spontanément à les opposer l'un à l'autre. Il y a la parabole du bon samaritain, souvent celle-là, on utilise pour dire que c'est bien de s'occuper des autres, c'est bien de travailler. Quoi. Voilà. Et puis l'autre, c'est l'histoire de Marthe et Marie, où on dira non, c'est bien de contempler, etc. etc. Parce que Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais bon. En fait, ces deux textes se suivent. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'évangile de Luc, Luc a tendance à regrouper les textes par paire. Enfin, pas systématiquement, mais assez souvent. Et que souvent, justement, il a tendance à jouer sur un jeu d'opposition. Et même dans les textes regroupés par paire, et là, c'est le cas ici, il y a dans un texte une histoire qui concerne des hommes, et dans l'autre texte, une histoire qui concerne des femmes. C'est le cas ici. Par exemple, vous avez, exemple, la parabole du bon berger, qui est un homme, puis la parabole de la drague perdue, c'est une femme. Oui, évidemment. Et souvent comme ça, les textes fonctionnent par paire. Alors c'est intéressant de penser qu'il a rapproché la parabole du bon samaritain et l'histoire de Marthe et Marie. Donc ça veut dire qu'il avait en vue une sorte de leçon commune à ces deux textes, qui concerne pour moi justement la question du sens du travail. Alors, le prêtre et le lévite, dans la parabole, alors si vous voulez savoir, c'est Luc 10, à partir du verset 30. Bon. Le prêtre et le lévite qui passent à côté du blessé, ils sont prêtres et lévites pour eux-mêmes. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils ne sont pas au service des autres. Le bon samaritain, à sa manière, il travaille, enfin, c'est un travail bénévole. Hein. Il s'arrête, il associe l'autre. L'aubergiste, comme on le dit souvent dans l'histoire, moi j'aime bien l'aubergiste dans la parabole du bon samaritain. Hein, pas d'aubergiste, pas de parabole. Bon, ben, il travaille. Je veux dire, il travaille, lui, il est payé, mais enfin quand même, il travaille pour le blessé lui aussi, finalement. Bon. Et alors en fait, sur le texte de Marthe et Marie, on fait une erreur de perspective si on pense que Marthe n'aurait pas dû préparer à manger pour Jésus. Je pense que c'est pas ça que Jésus lui dit. Juste au début du chapitre 10, de l'Épître 10, verset 5. Jésus vient de dire à ses disciples, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Si s'y trouve un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Alors à peine il a dit ça, il a pas reproché à Marthe de lui faire manger. Il est là, il est en chemin d'ailleurs, comme ils étaient en route. Comme ils étaient en route, ils entrent dans un village, c'est juste ce qu'il vient de dire à ses disciples, vous êtes en route, vous entrez dans un village, vous rentrez dans une maison. Et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Bon, donc, il mangeait et il lui laisse qu'on vous présentera. Donc, c'est pas ça le propos, n'est pas là. C'est pas ça qui est visé. Luc dit que, alors, je ne sais pas ce que vous avez dans vos versions, c'est pareil, c'est pas toujours traduit très précisément. On dit que Marthe était distraite ou absorbée. Absorbée, c'est peut-être bien, était absorbée par un service multiple, par un service compliqué. Alors ça, c'est autre chose. Elle est absorbée en elle-même, un peu comme le prêtre et le lévite qui, en fait, pensaient d'abord à rester dans la pureté, à rester dans leur... Alors, elle est dans son activité, puis, voilà, elle s'étonne en boucle, et même elle en rajoute un truc multiple, etc., etc. Où est-ce que ça peut être? Et elle est absorbée, elle se ferme parce qu'elle est dans son activité. Elle ne pense pas au but de son activité. Donc on retrouve la même idée. Vous avez connu peut-être aussi des gens, enfin moi j'en ai connu, qui disent qu'ils veulent rendre service, mais en fait ils travaillent surtout pour eux-mêmes. Enfin, ça, il y en l'association du monde qui avait fait à manger, que voilà, c'était bon, ils ne s'attendaient à rien d'autre. Bon. Donc, on revient à cette distribution du travail. Pour qui, pourquoi travaillons-nous? Maintenant, le travail, comme à cette période de texte de Luc, nous devons être disponibles aux autres et à leurs besoins, pour le grand bien de la terre, de l'âme et du corps. Voilà. Ou bien, pour parler comme commun, on peut parler comme quelqu'un, en mettant en œuvre les sciences qui concernent l'usage de la vie commune. Donc, ce qui donne du sens, ce qui oriente notre travail, c'est le service que nous pouvons rendre aux autres, sans nous absorber dans un service compliqué. Rendre service aux autres, simplement, en restant disponible à nous. Je dis ça, ça a l'air facile de le dire, hein. Bon, c'est rien de le dire, mais après ça, il faut le faire. Bon, okay. Et en fait, bien sûr, ça peut être compliqué. Je veux dire, on n'est pas toujours dans le travail précisément, on est dans les relations, en hiérarchie, etc. On n'a pas toujours la liberté de faire ce qu'on veut. Bon, d'accord. Mais voilà, le sens, la visée du travail, c'est celle-là. Alors, passons maintenant à évidemment les choses qui sont qui peuvent être assez lourdes dans le travail, la question des difficultés, des conflits, des injustices, des tensions au travail. Mais ça, voilà, après avoir parlé de travail comme vocation, ça, c'est dans le travail marqué par la chute, par des relations complexes, par l'injustice, etc., etc. Alors, bon, déjà, peut-être qu'il y a deux questions, deux sous-questions. Il y a quelle difficulté par le temps, et puis il y a comment y faire face. Alors, ces difficultés, elles sont sans doute plus visibles dans le travail rémunéré, mais il peut y avoir aussi l'exploitation du bénévolat. Ça existe aussi, hein. L'exploitation du bénévolat, alors, mais par exemple, les mères de famille qui font tout le travail domestique. Bon. Il y a aussi des personnes qui se dévouent corps et âme, comme on dit dans l'Église, et puis on est content de profiter. Hein, voilà. Il y a des militants qui font des burn-out. Hein, il y a quelqu'un qui disait, par exemple, qu'il a un conseil aux militants, milite, mais limite. Hein, voilà. Voilà. Donc tout ça, ça arrive. Alors il y a des difficultés qui ont trait déjà aux conditions de travail. C'est le premier point. Bon. Alors, en France, il y a encore des conditions de travail qui sont pénibles physiquement. Il y en a encore. Bon, heureusement, il y en a quand même moins que fut un temps. On a fait des grands progrès pour limiter les risques les plus importants. Et puis, bon, une chose peut-être moins positive, souvent, les travaux les plus dangereux, on les a exportés. Donc, on ne voit plus trop qu'il y a des gens qui travaillent pour nous dans des conditions pénibles. Ça, on devrait le trouver pour faire plus attention. C'est-à-dire qu'on est bien content dans les conditions de travail aujourd'hui où les tâches les plus pénibles ont été quand même disparues, les tâches les plus dangereuses. On oublie quelquefois que ces tâches dangereuses sont simplement parties ailleurs et qu'on ne les voit plus. Bon. Mais bon, il n'en reste pas moins que beaucoup de situations de travail qui étaient très dangereuses. On a mis des protections, on a mis des choses. Bon. Mais les risques, en fait, aujourd'hui, dans le travail, ils sont à notre ordre. Quand on fait les enquêtes, conditions de travail, ministère du travail, on fait régulièrement, c'est l'augmentation de la pression. Les situations de travail mal organisées et l'accumulation d'ordres contradictoires, le sentiment de devoir faire tout et son contraire, sauter d'une chose à l'autre, etc. Tout ça, c'est des choses qui ont été mises en évidence par les enquêtes du ministère du travail à partir de la fin des années 80. C'est des choses qui se sont développées, cette espèce de situation de stress global permanent dans lequel on enferme les salariés. Donc il y a les situations de tension qui se multiplient avec la hiérarchie, avec les subordonnés, avec la clientèle, avec les personnes qui viennent au guichet. Ça, c'est des choses qu'on voit dans les enquêtes. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit par exemple des maladies professionnelles d'un genre nouveau, qui sont les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes de tendons, des articulations, etc., etc. C'est-à-dire que les gens qui doivent, par exemple, typiquement, si vous voulez, par exemple, les caissières du supermarché qui doivent passer des trucs comme ça, mais pas juste les passer, qui doivent les passer en situation de stress, parce qu'il y a des gens qui font la queue, ils doivent respecter une certaine vitesse, etc. Donc on avait remarqué, par exemple, les gens qui travaillaient à la chaîne n'avaient pas ce type de trouble, enfin, pas pour dire qu'ils avaient des conditions de travail agréables.
mais ils n'avaient pas ce stress lié aux gestes. Ils avaient les gestes répétitifs, mais ils n'avaient pas le stress en plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça provoque aussi des malaises divers, des troubles du sommeil, des troubles digestifs. Et par exemple, souvent, ce qu'on appelle les troubles de l'insuffisance, c'est l'impression de ne pas arriver à faire face à la situation. Tout ça, c'est des choses qui sont très générales, très générales, oui, qu'en fait, on retrouve dans les enquêtes. Par exemple, il y a une question qui est posée dans l'enquête conditions de travail, qui est si vous faites une erreur au travail, est-ce que ça peut avoir des conséquences graves? Alors, plein de gens, disent oui. Même des gens, objectivement, au travers de travail, qui font une erreur dans leur travail, ça n'a pas des conséquences très graves. Pardon, moi, je suis enseignant. Bon, si je raconte des bêtises dans mon travail, ça aura des conséquences. De là à dire que ça a des conséquences graves, il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Mais il y a des gens que les institutionnels, les trop, qui sont... ça vous fait rire, mais de toute façon, les étudiants n'écoutent pas ce qu'on dit, de toute façon, c'est pas grave. Donc, en fait, il y a des tas de métiers où, en fait, mais les gens s'imaginent, c'est ça qui est vraiment impressionnant, que si jamais il faut une erreur dans le travail, ça pourrait être considéré. Alors, évidemment, la question, c'est que c'est conséquences graves pour vous. Alors, peut-être, oui, on peut se dire oui. Mais non, mais c'est aussi des conséquences graves pour les autres. En fait, il y a une espèce de dramatisation des conséquences de son travail qui est, moi, je trouve, très impressionnante. Et du coup, les situations d'épuisement professionnel qui se répandent. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur les difficultés liées aux conditions de travail. Alors, comment se protéger contre ça? Peut-être justement en repensant au véritable sens de notre travail et pas à toute l'espèce d'effervescence qu'il peut y avoir autour. Bon, c'est éventuellement pour en reparler dans les questions. Et une autre question, qui est la question, puisqu'on parle de difficultés, conflits, injustices, la question du juste salaire. Qu'est-ce que c'est qu'un juste salaire? Alors bon, petite question. C'est une question qui n'est pas nouvelle, d'ailleurs, qu'on a posée dès le Moyen-Âge. C'est impressionnant, d'ailleurs, parce qu'au Moyen-Âge, le salariat était très rare. Mais quand même, déjà, on a posé la question du juste salaire. Alors, on n'était pas rentré dans un calcul précis de ce que c'était le juste salaire, mais quand même, par exemple, Thomas d'Aquin, 13e siècle, il disait que le revenu du travail doit permettre de mener une vie digne. Je trouve que c'est pas mal, voilà. Le revenu du travail doit permettre de mener une vie digne. Sous-entendu, s'il a dit ça, c'est que déjà à son époque, il y avait des gens dont les revenus ne permettaient pas de mener une vie digne. Donc, je trouve que ça fait au moins un plancher, quoi. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Alors, si on regarde les évolutions récentes, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. D'abord, les bonnes nouvelles, après les mauvaises. Bon. Alors, il y a une diminution des inégalités d'un pays à l'autre. Alors déjà, ça c'est pour moi, quand j'étais jeune, ce n'était pas le cas du tout. Hein. On n'observait pas ça, les inégalités d'un pays à l'autre, elles continuaient à exister, voire à croître. Il y a une diminution. Ce qui est d'ailleurs en partie lié aux campagnes comme celle du défi Michel, enfin des millionnaires, etc. Tout ça, ça a quand même porté des fruits. Et on s'aperçoit que les inégalités entre pays diminue. Par contre, au sein d'un même pays, il y a une frange qui s'installe dans la précarité chronique, et puis il y a une grande majorité où les inégalités sont à peu près stables, où ce serait mieux si elles se réduisaient, enfin, et puis il y a une majorité de très riches qui voient leurs revenus croître considérablement. Et ça, on l'observe depuis. C'est pareil, en fait, la fin des années 80. Donc il y a tout d'un coup une partie des gens dont les revenus ont complètement explosé par rapport à tous les autres. Par exemple, aujourd'hui, le revenu, si vous avez des rentes ou des placements, le revenu de ces rentes ou de ces placements est très supérieur au revenu du travail. Ce qui, quand même, moi, ne me paraît pas très logique. Et là, on retourne à l'idée qui était dans l'Antiquité de, en fait, le mieux, c'est d'avoir des rentes, de ne pas travailler, c'est ce qui, en fait, est le plus rentable. Donc, normalement, je trouve que le revenu du travail devrait rapporter plus que le revenu des rentes. Ça, c'est mon point de vue. Même si je m'apprête à devenir rentier dans peu de temps. Enfin, j'entends. Non. Pas rentier, mais en tout cas, pensionné par l'État. Bon. Et en tout cas, ce fait-là, ça augmente les inégalités intergénérationnelles. C'est-à-dire, si vous avez des parents riches, ben, vous avez déjà une sorte de. Vous avez un bonus au départ parce que vous avez des revenus qui vous rapportent plus que les revenus du travail. Bon. Donc, ça, déjà, c'est pas très bon. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'aristocratie qui est en train de se développer, qui redéveloppait, alors que justement on était plutôt dans les
dans un régime dominé par les classes moyennes où l'aristocratie avait tendance à être un peu gommée, c'est que ces grandes inégalités de revenus, elles ont un effet indirect qui est néfaste. Au départ, d'ailleurs, les acteurs qui ont promu l'économie de marché, à partir du XVIIe siècle, ils ont lutté contre l'aristocratie, présentée à une aristocratie qui s'attribuait précisément les revenus du travail. Ça, c'était l'idée. Maintenant, on va faire une économie de marché, comme ça, les gens qui ont gagné de l'argent, c'est les gens qui produisent quelque chose. C'était ça l'idée. Bon. Quand d'immenses fortunes se reconstituent, on voit réapparaître des réflexes aristocratiques. Avec de l'argent, on peut financer des lobbyistes, on peut faire pression sur les législations, on peut aussi, bien sûr, financer des opérations illégales, on peut blanchir de l'argent, on peut échapper aux réglementations fiscales. Enfin, quand je dis qu'on peut, je veux dire, dès que vous avez beaucoup d'argent, c'est difficile de résister à la tentation. Hein. Bon. Et puis, tout ça, finalement, ça nuit. C'est moralement contestable, mais ça nuit aussi à l'économie globale parce qu'en fait, on sous-utilise de fait les compétences de personnes qui sont cantonnées dans la pauvreté. Alors que ces gens-là, si on leur donnait les moyens d'exercer leur activité, ils pourraient produire des choses communes en plus. Bon. Alors il y a une fédération d'ONG qui s'appelle Oxfam. Je vous conseille d'aller voir leur site, c'est très bien fait. Ils ont calculé qu'en 2015, si on prenait la moitié de l'humanité la plus pauvre, milliards de personnes, 3 milliards et demi, voilà. Ils ont une certaine richesse. Combien de gens parmi les plus riches il faut pour avoir la même richesse? Il en faut 62. 62 d'un côté, 3 milliards et demi de l'autre. Bon, il y a un petit problème quand même, ce que je veux dire. Sans être socialiste, je veux dire, quand même, c'est un petit problème. Bon. Et même, il y a plus grave, si vous prenez 1%, donc 1% ça fait beaucoup plus que 62, ça fait 1% de 6 milliards, de 7 milliards, ça fait 70 millions. D'accord ? Bon. Pour les 70 millions de personnes les plus riches, 1%. Et vous avez en face, c'est 99%, les autres. C'est la même chose. Le même revenu. Donc là aussi, il y a quand même un problème, quoi, ce que je veux dire. Quand on arrive à la jeudi danger, parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas seulement moralement chalet, ça l'est moralement choquant, parce que rien ne justifie des revenus pareils. Ça, vous pouvez expliquer ce que vous voulez. Qu'il y ait des inégalités de revenus, oui. Ça peut s'expliquer par les inégalités de compétences, d'accord. Mais là, non, on est au-delà de tout ça. Mais surtout, en fait, vous avez un réseau d'acteurs puissants qui a les moyens d'échapper pratiquement à tout contrôle. Parce que je veux dire, c'est des gens qui, en fait, sont dans un autre monde. Et on n'a pas d'exemple. Moi, je ne connais pas d'exemple de personnes échappant à tout contrôle et qui se comportent de manière vertueuse. Ça n'existe pas, si vous voulez. Hein. Pas de contrôle, pas de vertu. Hein. Ça, c'est. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais moi, non, j'ai jamais vu ça. Alors, que faire? Les chrétiens ne sont pas très à l'aise quand il s'agit de protester contre les injustices. Pour préparer ce livre de sur l'éthique pour tous, les auteurs ont recueilli des questions auprès des jeunes. Et, question qui vient. Première question. Est-ce qu'un chrétien a le droit de faire grève? Ah voilà, ça y est, bon. Est-ce qu'on a le droit de lutter contre les injustices? Est-ce que c'est mal de faire grève? Oui, alors plutôt que de non, il y aurait peut-être une autre question. Est-ce que c'est bien d'exploiter les autres? Non, ça c'est. C'est pas un problème. Par contre, faire grève, ça pourrait être un problème. J'ironise, mais j'imagine que c'est. Pourquoi est-ce qu'on est toujours mal à l'aise? Pourtant, dans la Bible, il y a quand même des gens qui avaient un peu, qui n'avaient pas leur langue dans leur poche. Hein, des gens qui ont lutté contre les injustices, qui ont protesté. Il y en a eu. Hein, je veux dire, bon. Alors, en fait, ça vient aussi d'une chose que souvent, quand on parle des conflits, on se fait souvent une image simpliste de l'enseignement de la Bible sur les conflits. Une image qui, en fait, cantonne le chrétien dans une forme de passivité. Il faudrait laisser faire et puis serrer les dents. Mais en fait, c'est un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle Tendre l'autre joue. Pour l'interrogation, puis il y a un sous-titre qui est La non-violence n'est pas une attitude passive. Voilà. Aimer son ennemi, c'est en fait faire quelque chose. Et au minimum lui faire du bien. Mais c'est faire quelque chose, c'est pas rester là. Bon. Par exemple, si je vois le texte du Lévitique, d'où est-il, où figure cette idée de. Tu aimeras ton prochain que toi-même. Voilà ce qui est écrit exactement dans Lévitique. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais affronte donc c'est le texte. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais affronte, c'est l'hébreu, et là, il répète ça comme ça. Affronte ton compagnon, afin de ne pas te charger la péché à son égard. Ne te venge pas, ne garde rien contre les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Ne te venge pas, mais affronte. D'accord ? Voilà, c'est pas la même chose. Bon. Et même d'ailleurs, c'est intéressant parce que d'abord, tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, mais affronte ton compagnon. C'est déjà un peu plus large que le frère. Après ça, ne te venge pas, ne garde rien contre les fils de mon peuple, là, c'est ton peuple. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, on peut penser que c'est tout le monde. Il y a une sorte d'élargissement. Donc en fait, certainement, l'amour de l'ennemi ne peut pas se résumer à une attitude passive qui est quelquefois induite par l'idée de tendre l'autre joue. Mais, par exemple, si vous vous souvenez, dans l'évangile de Jean, à un moment donné, il y a un procès où Jésus se fait frapper sur la joue. Et alors, qu'est-ce que fait Jésus ? À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Par exemple, il ne se venge pas. Mais, il renvoie quand même quelque chose. Il affronte la personne. Et justement, pourquoi il l'affronte ? Parce qu'il veut lui donner une occasion. C'est parce qu'il l'aime. Il veut lui donner une occasion de sortir de son truc. Si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi. Et si j'ai mal parlé, pourquoi me frappes-tu ? Donc c'est bien ça l'idée, si vous voulez, de l'amour de l'ennemi, c'est justement de ne pas le laisser dans ses égarements, de ne pas le laisser essayer de lui donner une chance de lui-même rencontrer le salut, de lui-même pouvoir aimer les autres. C'est ce que fait Jésus à ce moment-là à l'égard du garde. Dans le livre des Actes des Apôtres, voilà une attitude tout à fait semblable. À plusieurs reprises, il fait état de son statut de citoyen romain alors qu'il est arrêté et il n'hésite pas à invoquer le droit et lui paraît normal de le faire. Voilà. Par exemple, à un moment donné, ça c'est acte 23, alors qu'il est devant un tribunal juif, Paul reproche à son interlocuteur de ne pas respecter la loi. Et en fait, on lui dit mais non, si la droite fasse pas. Il s'excuse au nom de la loi. Il dit, ah oui, effectivement, j'aurais pas dû dire ça. Mais oui, c'est parce qu'en fait, il respecte la loi. Bon. Donc, ni Jésus ni Paul ne sont restés passifs dans les procès qui les concernaient. Ils rencontrent à la fois un respect des procédures en vigueur et puis un débat sans concession. Ils respectent les personnes en position d'autorité, mais ils témoignent en faveur de la justice. Et bon, dans les deux cas, ni Jésus ni Paul n'avaient en vue leur intérêt direct. Jésus sait qu'il va mourir. Et Paul aussi sait qu'il va devant au moment de moments difficiles. Il le sait à la fin des actes. Il sait qu'il va vers des choses difficiles. Mais donc, c'est pas ça qu'ils ont voulu. Ils n'essayent pas de sauver leur peau, mais de mettre en avant la justice et de donner aux autres l'occasion de changer. Donc le défi, c'est de faire entendre nos critiques d'une manière qui aille au-delà de notre cas personnel. Mais si vous pouvez interviewer les syndicalistes, enfin en tout cas, après, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu, peut-être, un peu mal tournés. Mais les syndicalistes, si vous voulez, intelligents, vous verrez que ce sont des gens qui en fait souvent n'ont pas de sacrifier leur carrière, parce que bon, ils savent que s'ils sont syndicalistes, ils ne feront pas carrière, et qu'ils le font pour le bien commun. En tout cas, pour moi, c'est le côté positif du syndicat. Si on proteste pour la justice, il convient que ça serve à tout le monde, à l'ensemble de l'organisation. On témoigne d'une situation injuste en se référant à des principes plus larges que la situation en cause. Et donc, aujourd'hui, il y a des lieux qui sont prévus en France pour la protestation non violente. Ça existe. Les instances d'arbitrage et le droit de grève qui encadrent, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est des lieux où, en fait, on peut parfaitement exprimer quelque chose, une injustice, une situation. Voilà, alors, dernier point. La reconnaissance dans le travail. Donc, si vous voulez, il y a des enjeux théologiques, on pourrait dire au travail, c'est la question de notre vocation par rapport à Dieu. Dans le travail, question théologique, c'est un point. Deuxième question, les enjeux sociaux, la question de notre rapport aux autres, liée à la question de la justice. Et puis, troisième question, des enjeux personnels, plus intime liée à la question de la reconnaissance, quelque chose qui nous concerne nous. Toute personne qui travaille, en fait, espère que son travail sera reconnu, et puis, au travers de la reconnaissance de son travail, que sa valeur sera reconnue. En fait, quand on travaille, c'est pas souvent mis en avant, quand on travaille, en fait, on risque gros. On joue l'image de soi, et puis ça explique que par rapport au travail, on soit facilement des écorchés vifs. Et il suffit de faire un truc, n'importe quoi, quelque chose de tout à fait anodin. Les gens ne sont pas enthousiastes, vous voyez ce que je veux dire. Bon, en fait, ça nous blesse assez profondément. Et je reprends l'exemple de l'enfant qui fait un dessin, il fait un dessin pour quelqu'un. Et puis il espère que son dessin sera reçu. Voilà, bon. Et c'est là que nous sommes souvent déçus parce que la reconnaissance n'est pas toujours au rendez-vous. En fait, le sens du travail, c'est de nous lier aux autres. Nous sommes au bénéfice du travail des autres. Et notre travail profite aux autres. Ce lien peut être faussé, il peut être manipulé, il peut être perverti, mais il subsiste encore et toujours. Et c'est un lien particulier. C'est un lien particulier que nous avons avec les autres. Il y a des liens directs qu'on appelle le lien à travers le travail. Mais ça ne veut pas dire justement que même si c'est indirect, ce ne soit pas un lien chargé d'émotions. Alors, il y a deux facettes à ce besoin de reconnaissance. Il y a une facette, je dirais, contestable. La théologie de la grâce et l'affirmation que Dieu nous fait grâce. Elle est là pour nous dire que Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Voilà. Nous n'avons pas besoin de nous perdre à la quête perpétuelle de la reconnaissance des autres. Ça, voilà, ça c'est une chose. Besoin de se pénétrer, chez Jean davantage. L'évangile de Jean et Jean 6, verset 27, il faut qu'on mette à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père qui est Dieu a marqué de son sceau. Se mettre à l'œuvre, il faut travailler. Il faut travailler, mais pas pour cette nourriture périssable. Et la nourriture périssable, c'était multiplication des pains, ce que les gens avaient mangé. Mais ça peut être aussi cette espèce de recherche de la reconnaissance, qui est une forme de nourriture périssable aussi. Et lui dire alors, que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. La quête de la reconnaissance de l'autre, c'est une nourriture périssable. Elle n'a pas de fin, elle ne donne pas la vie. Moi, je vois beaucoup de gens qui, en fait, passent énormément d'énergie dans cette espèce de quête perpétuelle de la reconnaissance de l'autre qu'ils n'obtiennent jamais au degré où ils voudraient l'avoir. Et c'est dans la foi, dans la relation confiante avec Dieu que nous trouvons notre vraie valeur. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut absolument garder à l'esprit quand on travaille, même si notre travail n'est pas considéré comme on voudrait qu'il soit par les autres, mais en fait, Dieu, lui, nous voit avec notre yeux et quel que soit ce que lui nous aime de manière inconditionnelle. Bon. Autre chose, il y a autre chose, une autre facette qui n'est pas du même ordre, qui est un peu la recherche dans le travail de pouvoir donner le meilleur de soi-même. Et ça, souvent, c'est aussi une chose sur laquelle on peut dire, c'est, pour moi, c'est plus quelque chose de positif. Donc, on n'est pas forcément en train de vouloir que les autres nous disent bravo, etc. Mais est-ce qu'on peut avoir dans le travail, est-ce qu'on a l'occasion de donner le meilleur de soi-même? Et c'est souvent une chose sur laquelle on bute aussi, d'un point de vue souvent assez intime. C'est que les situations de travail, elles sont aliénées, comme on dit, en fait, elles sont prises dans toute une série de relations, d'ordre, de mots d'ordre, etc. Et il y a une dimension d'empêchement. Moi, j'ai un collègue, un psychologue du travail, qui a travaillé, non pas sur la paresse, mais sur l'empêchement d'agir. Et en fait, il dit que dans tout travail, on est empêché de faire une partie des choses qu'on voudrait faire, et que même ce qui nous fatigue souvent, ce n'est pas tellement ce qu'on fait, c'est ce qu'on ne fait pas. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Oui, ça nous fatigue plus que ce qu'on fait. Voilà. Alors, bien sûr, à côté, ça fait partie de notre relation aux autres. Il n'y a pas d'identité entre ce que nous voulons offrir, ce dont les autres ont besoin, donc c'est une forme de négociation, mais cette aspiration, c'est bien de la garder. C'est bien de vouloir continuer. personnes. Il y a une nouvelle de Karen Blixen qui a été, dont a été tiré un film qui s'appelle Le Festin de Babette, où il y a cette formule comme ça, donnez-moi l'occasion de donner le meilleur de moi-même. Et cette femme qui en fait a dû fuir la commune de Paris, etc., qui se réfugie dans un village pourri au fin fond du Danemark. En fait, c'est quelqu'un qui est une cuisinière de tout premier ordre. Elle n'a jamais, elle n'a plus jamais l'occasion de donner le meilleur de soi, sauf une fois, dans une soirée, elle se lâche complètement. Et puis elle donne le meilleur d'elle-même. Et puis, apprenant qui elle était, les dames chez qui elle vit disent, ben, bon, combien tu enchanteras les anges ? C'est-à-dire qu'il y a aussi une dimension eschatologique, mais bon, voilà, tu as pu le faire une fois, je vois bien que ça va être difficile de le refaire. Un jour, tu enchanteras les anges. Voilà, on peut penser qu'on enchantera les anges pendant notre travail. Vous y croyez ? Ben oui, on enchantera les anges en donnant le meilleur de nous-mêmes. Formidable. D'ailleurs, je vais terminer là-dessus, dans les visions ultimes de l'Apocalypse, pour rester dans l'eschatologie, la vie sociale n'est pas annulée. La vie sociale n'est pas annulée. Alors, parce que vous parlez des loisirs, est-ce que vous voyez l'éternité comme un loisir ? Je ne crois pas. La vie sociale, elle est guérie. Ce n'est pas la même chose. Alors, je vous lis Apocalypse 21, à partir du verset 22. Je ne vis pas de temple dans la cité, car son temple, c'est le Seigneur. Et Dieu souverain ainsi que l'agneau. La cité n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et son flambeau, c'est l'agneau. Et alors qu'est-ce qu'il dit ? Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que même tout ce qui a été vécu dans l'histoire n'est pas comme ça effacé. C'est un trait d'éponge. Hein. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront pas au long des jours, car en ce lieu, il n'y aura pas de nuit. On y apportera, il répète, la gloire et l'honneur des nations. Mais il n'y entrera nul souillé, oui, c'est gloire et l'honneur. Guéri, recomposé. Les personnes qui pratiquent abomination et mensonge, mais c'est la seule qui sont inscrites dans le livre de vie de l'agneau. Puis, il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la cité. Et des deux bras du fleuve est un arbre de vie qui produit 12 récoltes. Et chaque mois, il donne son fruit et son feuillage sert à la guérison des nations. C'est, donc vous voyez, là aussi, hein, bien sûr, il y a les élus. Mais c'est cette élection qu'on vit dans la Jérusalem finalement.